sous-sols de Radio France.
J'ai peur.
Mais il n'y a pas de quoi avoir peur.
Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'on chuchote en espionnant des gens cagoulés la nuit dans les sous-sols de la radio.
Mais c'est un ton, Juju. On n'a absolument pas le droit d'être là.
Ok, mais alors pourquoi on est là?
On est là pour percer le plus grand mystère de France Inter.
Non, moi je vais remonter. Les conduits d'aération, c'est pas pour moi, je suis claustrophobe.
Pas question, de toute façon, tu trouverais pas le chemin du retour, hein. On a trop rampé pour arriver jusqu'ici.
Mais c'est fou, on n'entend pas ce qu'ils disent.
On n'entend pas parce que ça a l'air secret. Mais enfin, c'est quoi cette secte?
C'est pas une secte, c'est le comité de direction de la playlist France Inter.
Ok, donc c'est une secte.
Oh. Mais qu'est-ce que vous cherchez à savoir?
Eh ben, qui choisit les artistes, qui coopte,
qui tranche, qui condamne,
qui a fait entrer Eddy de Préto,
qui a refusé Annie Cordy.
Voilà.
Ah, d'accord. Parce que notre invitée, Laura Cahen, elle est dans la playlist.
Eh oui, regarde, là, il y a son disque entre une bougie et un bâton d'encens.
Guillaume, regarde la manche du mec, là, elle s'est relevée. Tu vois ce que je vois?
Attends, bon sang de bonsoir, de nom d'une pipe, baissez des tatouages.
Mon Dieu, c'est Chewbacca.
Oh, mais mince, mais c'est quoi cette marionnette qu'il a dans les mains de Chewbacca?
Mais je sais pas, on dirait qu'il s'agit d'une effigie de Vincent Delay.
Pourquoi? Attends, il prend un couteau, là.
Oh, mon Dieu, c'est horrible.
Mais depuis quand ça saigne avec du vrai sang, une marionnette, là?
Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il fredonne quelque chose.
Oh, c'est le dernier single de Juliette Armanet.
J'ai jamais vu un sacrifice rituel qui sentait autant la bobosphère.
Putain, c'est comme ça qu'ils alimentent la playlist France Inter, mais c'est fou, hein.
Non, mais là, c'est sûr, j'écouterai plus jamais Clara Lucienne de la même manière.
Non, mais attendez, mais c'est légal de faire tout ça, là.
Tu sais, la playlist, c'est une institution, hein. Ça existe depuis tellement longtemps, on se demande même plus comment elle est préparée.
C'est vrai.
Ouais, ben, il serait peut-être temps de revoir les méthodes, parce que ça fait très flipper.
J'avoue, et encore, t'as pas vu comment sont préparées les frites de la cantine?
Ah non, non, laisse-moi tranquille, je veux pas t'avoir.
C'est du blanc de bœuf.
Bonjour, la France Inter. Chut, il y a Chewbacca dans le studio. Vous l'avez bien entendu. Ah, bienvenue chez les petits alchimistes de la blague, dont voici la devise. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble en direction des législatives. Voici le sommaire, Juliette.
La question du moment qui agite le monde, la politique française, c'est qui sera Premier ministre? À égalité avec une autre question, sera-ce une Première ministre? À égalité avec une troisième question, ah ok, mais où dans l'entourage du président y a-t-il des femmes? Parce que voilà ce qui risque de lui arriver à la potentielle Première ministre le jour de son entrée à Matignon.
Je ne sais pas qui c'est.
Oui, non. Je l'ai vu dans un film, effectivement, à la télé, je crois.
Non, Carole, on me fait signe. En fait, il s'agit de notre Premier ministre.
Les experts climatiques sont entrés en rébellion. Un mouvement international de désobéissance civile touche les scientifiques spécialisés dans l'environnement. Et quand un chercheur se lance dans l'activisme, ça fait mal.
Un dérivé lent de la nitroglycérine. 5-6 gouttes dans le potage et le patient explose. De l'intérieur.
En Russie, la propagande homophobe passe par un programme de télé-réalité co-animé par un député d'extrême droite.
Ah, sympa.
Camoulox. Le principe, 8 hommes tentent de prouver qu'ils ne sont pas gays.
Le point commun entre Gaëtan, Hervé et Monsieur Roger. Ils sont à la compta? Faux, ils sont pédés. Alors tu me les vires. Je remarque que ce soit la Gay Pride à la cantoche.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnoux, bonjour.
Bonjour Charline, et à nos côtés, une équipe fan de Bobby Lapointe. Comme Bobby Lapointe, sa carrure athlétique le distingue. On le voit aussi aisément dans les couloirs de France Inter qu'un porte-avions au milieu des cormorans. Bonjour Chewbacca.
Salut. Non, c'était impeccable le sketch, hein, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait.
Ouais, dire. On le savait, on a très peur de vous.
C'est Freddy.
Ouais. Et de quoi vous allez nous parler après?
De Bob the Knife.
Ah, il y a un couteau donc encore.
Ouais, encore. Ah,
génial. Je pourrais vous dire que lui, il est comme Marcel de Bobby Lapointe. Il a l'œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant.
C'est moi.
Mais ce serait discutable, surtout l'œil. En vrai, il a le verbe vif, la fesse arpenteuse de trottoir et la conviction arrogante.
C'est vrai.
Bonjour Guillaume.
C'est
Maurice.
Vrai aussi. Bonjour tout le monde. Moi, je suis allé au Grand Prix de l'innovation de la Foire de Paris aujourd'hui. Au cœur de ce que l'avenir nous réserve, notamment au niveau médical.
On vous coupe la moitié d'un quelque chose qui pourrait fonctionner encore toute une vie, quoi.
Et ce n'est pas ce que vous croyez.
On ne croit rien. Enfin, Bobby Lapointe avait inventé le système mathématique Bibi binaire. Lui, il est sur le point de rendre public sa dernière trouvaille scientifique, la Bibi binouze. Ça ressemble à de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, et bien c'est de l'alcool. Voici Émeric Lomprey.
Bonjour.
Bonjour Émeric.
Bonjour.
De quoi vous allez nous parler?
Je suis allé au Grand Prix d'innovation de la Foire de Paris, moi aussi.
Sérieusement?
Non.
Merci. Donc on ne saura pas. Voilà.
Et voici celle qui va remettre le disque au milieu de la platine. Vous êtes
Laura Cahen.
Oui.
France Inter. Charline Vanhoenacker.
Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Laura Cahen. Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir le secret de votre entrée dans la playlist France Inter?
J'étais effrayée.
Eh bien, vous pouvez. Je rappelle que votre deuxième album, intitulé Une fille, est sorti il y a un an. Mm-hmm. Vous êtes en tournée, vous allez faire quelques festivals d'ailleurs aussi. Et demain, vous serez à Pézenas, dans l'Hérault, pour le Printival. C'est un festival qui fête les 100 ans de Bobby Lapointe. Vous serez notamment avec Pauline Croze. Donc, vous allez jouer avec l'une des artistes qui vous a pas mal inspiré, non?
C'est vrai.
Ouais. En quoi est-ce qu'elle vous a influencé, Pauline Croze?
Elle fait partie d'une génération comme Camille, Émilie Loiseau, qui avait d'autres...
Il n'y avait pas Barbara.
Barbara.
Il n'y avait pas
la même génération. Pas la même génération.
Barbara II.
Calogero. Enfin, Jeanne Chéral.
Shakira.
Ouais, Jeanne Chéral. Ouais. Shakira.
Qui m'ont beaucoup inspirée. C'est vrai. J'ai beaucoup écouté ses chansons et notamment son premier album quand j'avais 12 ans et j'aimais beaucoup.
Ce qui facilite la collaboration ou vous êtes timide un petit peu?
C'est pas vraiment une collaboration en fait, c'est un coplateau, donc on va faire chacune notre... notre show. Mais je suis contente de la rencontrer, ouais, c'est super.
Il n'y aura pas de titre en commun, mais peut-être plus tard sera l'occasion.
Peut-être un titre de Bobby.
Ah, voilà, d'accord.
Non, je ne sais pas, on n'a pas du tout préparé ça.
Ah oh, bah d'accord, on n'a pas préparé. Ah bah d'accord, genre on n'a pas préparé. Alors Laura Cahen, votre album intitulé donc Une fille est entre guitare et musique électro. Comment est-ce que ça se traduit sur scène? Quelle formation vous avez
sur scène?
On
est trois filles avec Zoé Hochberg à la batterie et Théodora à la basse et au clavier. Et au clavier Zoé aussi et puis moi aussi guitare et au clavier. Puis c'est assez rock en fait, c'est vraiment très girl power, je sais pas, il faut venir nous voir. Et puis il y a quand même quelques chansons dont on a gardé l'idée intime avec pas grand chose, la guitare et puis quelques synthés pour élargir le son, mais oui, globalement, ça envoie quand même pas mal.
Ouais, ça envoie. Et puis, petite formation, donc ça veut dire que votre voix est aussi mise en avant, j'imagine. Ouais. Entre les deux albums, vous avez un peu modifié, la voix a changé. En quoi est-ce qu'elle a changé depuis Mon Loup, par exemple, un de vos tubes?
Ça, c'était encore plus vieux.
C'était encore plus vieux, c'est vrai. En quoi est-ce qu'elle a changé votre voix? Est-ce que, j'imagine que sur scène, c'est pas la même chose que de l'utiliser en studio. Est-ce que sur scène, vous avez trouvé tout de suite comment faire avec cette nouvelle manière de chanter?
C'est vrai que c'est une question, parce que je pense que sur l'album précédent, je chantais de manière un peu plus lyrique, peut-être même, je dirais, ampoulée. Je sais pas ce qui s'est Alors, je suis méchante avec moi-même, j'ai du mal à réécouter, c'est vrai, certains trucs, parce que je trouve que je chantais... c'est plus moi en tout cas, je me reconnais pas.
Mais vous aviez besoin de vous rassurer, vous vous cachiez derrière quelque chose.
Me cacher derrière un masque, c'est vrai.
C'est comme les premières chroniques
d'Emeric. Grande robe et beaucoup de réverb.
Il y a de la réverb, oui. Et donc là,
j'ai fait tomber tout ça. Et quand on enlève la réverb, il faut vraiment essayer de chanter. Enfin, j'ai eu la sensation, l'impression en tout cas, que j'avais intérêt à chanter le plus simplement possible. Et c'est ce que je cherche de plus en plus, vraiment au plus proche de la voix parlée. Mais comme j'adore les grandes mélodies, il faut quand même que je puisse les accompagner, mais simplement. Voilà. Et sur scène, pareil.
Juliette?
En 1975, le premier...
J'étais pas née.
Non, je le sais, moi oui. En 1975, le premier groupe de rock intégralement féminin est arrivé, c'était les Runaways, avec notamment John Jett. Vous avez un groupe où il n'y a que des filles, vous avez décidé que c'était que des musiciennes.
Oui.
Est-ce que c'est une évidence à notre époque?
Oui. Pour moi, en tout cas, ça l'est, en tout cas, d'essayer autant que faire se peut de mettre les femmes en valeur dans mon entourage, puisque j'ai, en tant que chanteuse, artiste, lead, ou je sais pas comment dire, un certain pouvoir. J'essaye de l'utiliser pour mettre en avant les talents des femmes, parce qu'il y en a plein, en fait, et on les met pas assez en avant. Puis j'ai vraiment envie de donner envie à des petites filles, à des ados, de pouvoir faire de la musique plus tard et qu'elles se sentent légitimes.
Ouais, mais comme John Jett, par exemple, a inspiré une tripotée de jeunes femmes derrière à prendre, par exemple, une guitare. Une autre chose, vous avez une chanson dans ce deuxième album qui s'appelle « Dans mon lit », qui revisite en quelque sorte ma préférence, puisque vous dites...
oui, si on veut.
D'une certaine manière, c'est une préférence. Vous, dites, vous chantez « Qu'est-ce que ça peut vous faire si je préfère dans mon lit une fille ?» Et ça pose... Moi, ça, je me suis posé la question de à qui vous chantez cette chanson. Est-ce que vous la chantez à celle qui préfère aussi une fille dans leur lit, ou à ceux et à celles que ça hérisse?
Non, plutôt à ceux que ça hérisse, mais en premier lieu, c'était peut-être aussi simplement à mes parents ou à mon entourage, aux gens proches. Enfin, c'est une sorte de coming out, quoi, de d'autoconviction, de me dire, bah, c'est bon, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, qu'est-ce que... Oui, vraiment, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je peux faire ce que je veux, mais il fallait que je me le dise à moi-même avant de le dire aux autres, et puis oui, particulièrement à tous ceux que ça hérisse.
Donc vous chantez avec votre vraie voix et vous faites votre coming out.
Voilà, exactement.
Okay. Et la vraie voix, on va l'entendre en live, Laura Cahen, puisque vous avez la gentillesse de nous accorder un titre en direct, en studio. Je vous laisse le temps de vous installer, il y a une guitare, et puis un casque qu'on chausse, nous sommes tout ouïes. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter? Les Coquelicots par exemple?
Coquelicots.
Ok, Coquelicots. Laura Cahen sur France Inter dans Par Jupiter, en live, en acoustique.
Ne reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois? Bourgeons un beau jour la glycine, danse sur le toit. Dis, refleuriront les coquelicots, vivront tant que voleront les corbeaux. Ne reste-t-il que les épines quand je suis dans tes bras? Pétales envolés, les racines du sol s'en vont parfois. Dis quand refleuriront les coquelicots, si le vent nous repousse à nouveau.
Laura Cahen, merci pour ce titre magnifique. Et quelle voix! Coquelicot, qu'on peut retrouver sur votre album intitulé Une fille et que vous chantez en collaboration avec Yaël Naïm oui. sur cet album. Merci, c'était sublime.
Merci beaucoup.
N'est-ce pas? Juliette est soufflée.
Oh. Ah non, mais c'est enfin, vous avez une voix magnifique.
Oui, c'est bien la playlist de France Inter.
Très, très bien. Mais évidemment.
Mais du coup, pour les coquelicots, pas de réponse. On ne sait pas quand ils vont refaire. Moi, j'attendais quand même ça.
Cette année, il y en a quand même pas mal. Bon, par rapport à quelques années, ça, je vous le dis, ça a progressé. Je constate.
Juliette, qui est là pour entourer Laura Cahen?
Oh, des coquelicots. Éric Lomprey, Djoubaka et cette espèce de chardon qui est Guillaume Meurice.
Que des fleurs des champs avec nous et l'information.
Il va falloir demain construire une équipe. Est-ce que vous pourrez en prendre votre part en rejoignant cette équipe si on vous le propose?
Moi, je peux toujours servir mon pays. C'est d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Le journal de presque 17h17.
Manu, tu vas voir à droite à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu reviens. Pourquoi t'as une gauche? On s'en fout. On s'en fout.
Et on commence par les titres.
Oui, ce matin sur France Info, François Hollande a donné son avis.
Allez, la suite.
Attends, j'ai pas fini là.
Non, François Hollande a donné son avis. Allez, la suite.
Ok, ouais. Alors, politique, toujours, Édouard Philippe a déclaré...
Non, sans déconner, Charline, sans déconner.
Mais quoi?
Mais non, mais on dit journal d'actu, qu'est-ce qu'on ne comprenait pas dans le mot actu?
Mais non, mais...
allez, on enchaîne, non, Charline, allez, on prend Édouard Philippe.
Regarde. Allez, dans ce journal, on parlera également de Jean-Pierre Chevènement.
Allez, ça me saoule, allez, envoie le truc.
C'est la
oui,
2022,
non, mais attendez, hein. N'importe quoi. Allez, bon, bah, on commence par la politique. Alors.
Bon, bah, désolé, François Hollande.
Bon, bah, allez-y. Allez-y.
François Hollande a mis en garde contre la disparition possible du Parti Socialiste.
Moi, ça m'inquiète, ça, quand même.
Que le PS disparaisse?
Non, que François Hollande voit des choses qui n'existent déjà plus. Il est le seul à voir encore le PS. Mmh. C'est comme dans le sixième sens. Je vois des socialistes partout.
Ça, oui. Et le Conseil constitutionnel a annulé 0,05% des votes exprimés lors de la présidentielle.
Comme par hasard, Macron démission.
Mais pourquoi?
Je sais, bah, j'aime bien crier Macron démission, mais il n'y avait pas de lien là, vraiment. Macron démission!
Ça fait vraiment, du bien. Ça va vraiment être le prochain nom de l'émission.
Faites-le chez vous.
Ouais. Et là, avec ce que je viens de dire, on ne sera jamais reconnu.
Pardon.
Selon un sondage, la réélection d'Emmanuel Macron est une mauvaise chose pour le pays, pour 55% des Français.
Selon un autre sondage, 99% des Français trouvent que les sondages commencent à bien nous saouler.
Mais attendez, pourquoi seulement 99%?
Il y a 1% de sondeurs, en fait.
Europe Écologie Les Verts a dit ne pas vouloir du terme Union Populaire en cas d'accord avec la France Insoumise.
C'est bien, je vois que les discussions portent sur les sujets qui intéressent vraiment les Français. Ça, c'est quand même toujours rassurant. C'est bien.
Le parti d'Édouard Philippe, lui, se déclare surpris de ne pas avoir plus de discussions avec LREM pour les législatives.
Moi, je me déclare surpris qu'on en ait quelque chose à foutre. C'est bientôt les vacances, non?
Et puis, Jean-Pierre Chevènement lance un mouvement politique en soutien à Emmanuel Macron.
Oui, on souhaite bonne chance à la RED, à la République en déambulateur.
Et puis ce matin avait lieu le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex.
Voyez. Alors ça, ne vous réjouissez pas Charline, avec cette démission on perd 90% de notre matière première pour ce journal,
c'est
imaginez.
Vrai,
Jean-Michel Blanquer va peut-être partir.
Oh mon Dieu,
non. Oh ça me fout le seum.
Les cadres du parti Les Républicains cherchent à rebondir et déclarent dans Le Point, on ne va pas rester sur le banc de touche.
Oui, bah ça c'est sûr parce que le banc il a été vendu sur le bon coin pour rembourser la campagne de Pécresse. Il n'y a plus de banc. En fait.
Une page science maintenant. Mm-hmm. Barack Shoshani, un physicien qui est professeur à l'université de Brock au Canada, pense avoir percé l'un des secrets du voyage dans le temps.
Bah oui, il l'a appliqué il y a deux semaines en nous faisant voyager en 2017.
Et puis une nouvelle plainte a été déposée contre PPDA pour agression sexuelle.
Moi je pensais, sinon on pourrait peut-être compter les femmes qui n'ont pas été agressées par PPDA, parce qu'on gagnerait quand même un temps fou, je trouve, non? C'est une petite proposition. Quoi.
En Nouvelle-Zélande, un mouton disparu depuis 4 ans a été retrouvé avec 20 kilos de laine sur le dos et une tonte publique a été organisée.
Il y a un truc qui disparaît pendant plusieurs années et qui revient pour se faire tondre en public, un candidat à Les Républicains à l'élection présidentielle. Je ne vois que ça, c'est la même chose.
Et enfin, dans les Landes, deux hommes ont été condamnés pour avoir tenté d'envoyer des colis de magret de canard à des détenus.
Ouais, c'est l'affaire rondement menée par le commissaire Magret. C'est bientôt les vacances, écoutez, voilà.
Oui.
On déstocke avant les vacances. C'est des chutes qu'on avait.
Oui, bah, toutes les blagues, on s'en fiche. Alors forcément,
voilà,
facile.
Ouais.
Tant que ce soit les vacances. Hein. Merci Guillaume Meurice, on est hyper bien informé.
Maintenant, au moins on informe.
C'est vrai, effectivement, la rédaction là est en train de prendre des notes pour le journal de 18h. On va aborder ce premier thème avec vous, Laura Cahen. C'est Juliette qui vous le soumet.
C'est le titre du blockbuster de la semaine. Y aura-t-il une femme pour prendre la succession d'Edith Cresson, c'est-à-dire devenir la deuxième première ministre de la 5e République contre 24 messieurs? Après un quinquennat dont la grande cause était supposément l'égalité femmes-hommes, Emmanuel Macron a commencé ses entretiens d'embauche dans ce but et on a un scoop. Voilà à quoi il ressemble. Chante avec moi, je tes acquis sociaux. Eh bien, c'est officiel. Les chanteuses de la playlist de France Inter secouent la tête en écoutant Camaro. En rythme. Voilà, vous vouliez nous parler de la place des femmes dans la société, donc on vous a sorti Camaro. Non. On vous propose de parler de la place des femmes en politique, tout en haut, ou presque, donc. La première ministre potentielle. Quelles que soient vos opinions sur le président Emmanuel Macron, est-ce que vous nourrissez quelques attentes concernant le genre du ou de la première ministre ?
Mais disons que ça ne devrait pas être une question pour moi. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir que ce soit une femme et qu'elle tienne un peu plus longtemps qu'Edith Cresson. Ça serait
voilà, qui est celle qui est restée le moins longtemps.
Dix mois.
En dessous d'elle, il y a Bernard Cazeneuve. C'est vrai qu'elle est restée très peu de temps.
Mais oui, j'aimerais que ce soit une femme, peut-être une femme queer. Lesbienne, noire, arabe,
doucement, Laura, doucement.
Ah oui, on en est là, ce serait super.
Oui, ça serait extra. Mais y en a-t-il une déjà dans le personnel politique? Ah, voilà, il n'y en a pas. Quels arguments, on sait que vous avez des positions plutôt féministes, assez clairement assumées. Quels arguments vous déployez pour expliquer que c'est important qu'il y ait une femme à ce niveau-là de l'État, quel que soit son bagage politique par ailleurs?
Oui, c'est assez simple. Si on veut ne plus être dans une société exclusivement patriarcale, il faut que ça soit égal aussi au sommet. Enfin, si c'est un président homme, il faut qu'on ait une première ministre femme. Ça me paraît assez logique.
Mais ça fait une cohabitation, ça, non?
C'est ça. Oui. Oui, voilà, tout simplement, pour que tout soit réparti, qu'on soit égal, égaux.
De la même manière que vous mettez des musiciennes sur scène, vous estimez que c'est aussi une manière pour les petites filles, quand elles regardent la télé, de voir une femme occuper des charges importantes.
Oui, aussi gagner la palme d'or. Enfin, à tous les niveaux, c'est la même chose. Quoi. Pourquoi il y a si peu de femmes? Parce qu'on a construit cette société-là tous ensemble, mais il faudrait peut-être la déconstruire. On commence, mais on n'y est pas encore tout à fait arrivé. Et c'est vrai que ça serait un bon signe que M. Macron mette une première ministre femme.
Il faudrait déconstruire Jean Castex.
Je m'en occupe pas personnellement, je refuse la mission. Vous êtes née en 1990. Quelles femmes politiques françaises ou étrangères vous ont inspiré depuis que vous êtes en âge de regarder ça?
Je dois dire que c'est difficile comme question pour moi. Je suis plus inspirée par le cinéma, la littérature.
Michèle Alliomari, non?
Oh là, ça fait longtemps qu'on avait.
Qui a été la seule femme, Michèle Alliomari, la seule femme ministre des Affaires étrangères en France, toute la 5e République.
Ouais. Je croyais beaucoup en Christiane Taubira, mais j'ai été assez déçue, là, comme beaucoup de gens. Cate Blanchett.
Ouais. Allez, Cate Blanchett, Premier ministre. Pour remplacer, ça va nous changer de Jean Castex. Hein, faut vous dire. Des allocutions de Cate Blanchett pour nous dire on est confiné 3 mois. Ça a passé tout seul. Laura, donc, je rappelle que demain, vous serez à Pézenas, dans l'Hérault, pour le Printival, pour fêter les 100 ans de Bobby Lapointe. Je pense que c'est le thème choisi par Djoubaka, n'est-ce pas?
Cette chanson.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté, tic-tac,
tic-tac, tic-tac. Bon, faut que je vous dise, Bobby Lapointe, pendant longtemps, ça n'a pas été mon phare illuminé dans la nuit. Parce qu'au début des années 70, juste après sa mort, c'était le genre de chanson qu'on t'apprenait à l'école. Et savoir chanter Takati Takati, enfin bon, le truc là, pour un môme dyslexique, c'est du cauchemar en barre. Donc je dois vous dire que très tôt, je l'ai pris en grippe, le Bobby. Là. 20 ans plus tard, je me retrouve dans une bagnole avec un Gus de ma famille, vous savez, le genre qu'on connaît à peine, voilà. Et dans sa caisse, il y a une seule cassette, pas deux, hein, une seule, une compilation de Bobby Lapointe. Là, franchement, j'ai très mal à ce moment-là. Et donc, pendant que le gars, c'est lui qui conduit, c'est pas moi, j'ai pas le permis, il allait arroser le muguet. Et donc, je sais pas comment, cette unique cassette s'était retrouvée dans l'état de plus fonctionner. On avait cassé l'autoradio en son absence. Moi, je dis, dommage, bon, bah, c'est la faute, t'as pas de chance. Voilà, bref. Et puis, alors vous allez voir, ça, c'est une série. Hein. Et puis, il y a fort longtemps, une des productrices de France Inter, avec qui je dois travailler, m'informe que dans son estime musicale, il y a un dieu, hein, un artiste qu'elle aimerait avoir comme fil rouge pendant toutes ses émissions de radio d'été. Qui, demandais-je alors? Bobby Lapointe, avec un grand sourire, elle me répond. Alors bon, bah là, je me retrouve coincé comme au fond du gouffre. Va falloir que je me Bobby Lapointise. Donc je m'écoute l'intégrale et je dois dire que j'y prends du plaisir. J'y trouve même de l'audace dans ce répertoire. J'enchaîne sur une biographie, et là, il devient vraiment sympathique, le Bobby. Mathématicien de génie, violoncelliste qui la ramène pas, vendeur de layettes, et finalement, musicien-poète. Il sait ce qu'il veut, il va, ne va pas du tout, du tout dévier de sa trajectoire. Mais franchement, il va bien payer cette singularité. Alors aussi, anecdote, l'homme sait visiblement travailler et naviguer en eau trouble, voire double. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il s'évade d'un camp de travail obligatoire et il va prendre comme nom d'emprunt, attention, Robert Foulcan. Déjà, c'est pas mal. Donc, tu l'aimes bien, quoi. Et comme il est recherché par l'armée nazie et les milices françaises, et qu'il faut bien croûter quand même, puisqu'il s'est évadé, il cherche un moyen de se cacher. Et il se chope un boulot de scaphandrier dans le port de la Ciotat. Ça, c'est la cachette ultime, quoi. C'est dur de faire mieux. Et donc, c'est juste après la guerre, en fait, il va commencer à écrire des chansons, des poésies. Et quand on voit l'influence qu'il a aujourd'hui, le public qui s'intéresse à ce Robert Foulcan Lapointe, on se dit que ça a dû aller pour lui, que c'était fastoche, etc. Eh ben, que nenni, hein, que nenni. Il s'est tapé l'entrée des gladiateurs du genre multiple sans réussir à monter une seule marche pendant très longtemps. Mais vous savez, hein, il est rare d'avoir du talent sans jamais être connu. C'est une sorte de morale intelligente que je partage avec plein de gens. Voilà, c'est mon avis. Donc personne, à cette époque-là, ne veut de sa tambouille. C'est trop intellectuel. Les mecs lisent les textes, genre les frères Jacques, ils comprennent rien. Et alors, ils se disent aussi que le public va rien comprendre, un peu comme moi. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'à un moment, il peut se passer des choses. Bon, c'est un gars particulier, hein. Et toujours est-il qu'il faut bouffer. Et pour remplir le frigidaire, Monsieur Lapointe multiplie les boulots et il est installateur d'antennes télé. Et un jour, il se rend, pour installer la dite antenne, chez un directeur artistique. Mais ça, il le sait pas. Hein. C'est celui des disques Fontana, un garçon qui s'appelle Philippe Veil. Et Fontana, c'est un label satellite de la grande maison de disques Philips. Et c'est un label où on peut prendre des risques, c'est-à-dire qu'on peut perdre même un peu d'argent et qu'il recherche, alors ça n'existe plus, hein. Ou alors c'est vraiment des indépendants d'indépendants, il cherche l'artiste hors norme et hors mode. Alors, Veil, il rencontre Lapointe, il est tellement convaincu de son talent qu'il lui fait signer un contrat, mais à la vitesse du vent. Bobby Lapointe, là, il a 40 ans et ça va commencer, quoi. Il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Il va écrire une cinquantaine de chansons tout en marquant le rythme de l'épaule. C'était très dur de le suivre en studio parce que c'était jamais avec le pied, c'était toujours l'épaule. Puis des fois, il allait un peu plus vite. Enfin, bref.
Comme Sarkozy.
Ouais, un petit peu, ouais. Et à l'écoute de son répertoire, on s'aperçoit vraiment là, ben, en fait, sa créativité, c'est-à-dire la difficulté rythmique et phonique avec laquelle il écrit ses textes et compose ses musiques. Alors, moi, je dirais quand même que sa fantaisie n'a d'égal que son sérieux créatif. C'est-à-dire qu'il est vraiment singulier sans le vouloir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on le réécoute avec bonheur, même moi, aujourd'hui. Donc, il aurait eu 100 ans cette année. Il y a donc un festival, un printival, ça, celui-là aurait plu, Bobby Lapointe, qui a lieu en ce moment à Pézenas, parce que c'est là qu'il est né. 7, c'est Brassens, Pézenas, c'est lui. C'est son lieu de naissance. Mm-hmm. Et je vais vous faire écouter une chanson qui s'appelle Mélie Mélodie. Comprends qui peut, mais ça va vous rappeler peut-être un truc, la gougoute à son chat de Monsieur Brassens.
Okay.
Non, mais dans un autre style, en fait.
La mini, oui la mini et la manie de Mélanie, Mélanie l'ami d'Amélie, Amélie dans les doux nénés de nounou moulés, tendement le laine lamé ou mêlé de la milanée, Amélie dont les nénés doux ont donné à la mimilou. Milou le dade et de Limoux, l'idée d'amener des minous menus de Lima, miolandant des deux damas, et dans les mines de la main dont Émilie Déaléda. Dont les dix dents de lait, la mine et les mâles mollets, d'un malade mendiant malais, dînant d'amibes bah, amidonné. Mais même amidonné l'amibe, même l'amibe malhabile, en mielé dans la bile humide, l'amibe amimine le bide. Et le dit malade adulé, dont les dalimes et les mollets, le mal a donné, dame, l'éda l'y a aidé. Et l'éda dont la libido demande dans le bas du dos, mille lents mimi d'animaux au dominé donna les mots.
Alors, Mélie Mélodie, allez, vous me le chantez tous maintenant.
Oh là là,
de mémoire.
Bah, c'est prévu. Voilà, voilà. Je pense que Laura Ken, demain,
bah
demain,
elle a un duo, je crois, avec Pauline Croze pour demain. Bah, allez, comprends qui peut. Et c'est surtout le Printival, Bobby Lapointe, à Pézenas.
Merci, Djoubaka. Merci beaucoup. Et puis, Laura Ken, vous serez aussi le 4 mai en première partie de Julien Doré au Zénith, ou le 2 juillet à Autran, au Vercors Music Festival, entre autres. Il y a pas mal de dates. Et le 9 février 2023, ce sera le Trianon, à Paris. Guillaume Meurice,
oui.
Quoi de neuf?
Eh ben, ça y est, on est dans le monde d'après.
Ah.
Ça y est, tout a changé. On a un nouveau président. Ah, ça c'est bien. Il est soutenu par Jean-Pierre Chevènement. Ah bah super. Ségolène Royal a dit qu'elle voulait bien être première ministre. Waouh, tout a changé d'un coup. C'est incroyable, ça va vite. Tout s'accélère. Vous avez vu comme Emery il est passé de punk à chien à hipster, de la 8-6 au macchiato frappé. L'argent, ça vous va très très bien, Emery. Vous devriez l'utiliser pour trouver un vrai co-auteur. C'est incroyable. Tout change, tout change. Regardez ma chronique. Tout change. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis allé emmerder des gens. J'avais jamais fait. Tout change, tout va très très vite. Je le sais parce que je suis allé ce matin au Grand Prix de l'innovation de la foire de Paris, parce que le monde est en perpétuelle mutation. Alors, il y a quand même des choses qui restent immuables. Par exemple, le barbecue. Hein, c'est l'été, il fait beau, on y va, c'est la valeur sûre. Mais le barbecue évolue avec...
un barbecue intelligent, connecté, qui va relever les températures avec un thermocouple et qui pourra aller jusqu'à assurer des cuissons automatiques à travers des presets. C'est le barbecue numérique de demain, à la portée de tous.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le barbecue soit plus intelligent que la personne qui s'en occupe?
Non, toutes les personnes qui font du barbecue sont intelligentes.
Oui, ça, vous pourrez vraiment le vérifier très facilement dès votre prochain barbecue en disant juste « Non merci, pas de côtelettes, je suis végétarien ». Normalement, ce qui va suivre, ça va être très très intelligent, hein, la réponse. Donc, le barbecue du futur, pourquoi pas le verre de rosé connecté? Il y a un projet là-dessus?
Non, mais par contre, effectivement, j'apprécie énormément de pouvoir boire mon apéro tranquillement, en surveillant mon barbecue à distance, et j'ai la possibilité de recevoir des notifications, par exemple, par SMS, à terme, quand la cuisson des aliments est faite.
J'ai de plus en plus hâte que les archéologues du futur se penchent sur notre civilisation. Vraiment, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont retrouver des pics à brochettes Bluetooth, des glaçons, oui, ils vont se régaler, des glaçons Wi-Fi, n'importe quoi. Ils vont piger pourquoi on a disparu, en fait, tout simplement, ensevelis sous nos triples pontages coronariens. Même si, une fois qu'on a bien bouffé le barbecue, vous n'avez plus qu'à acheter la ceinture qui fait maigrir en vous appuyant sur le bide.
Voilà, c'est-à-dire, lorsque vous la gonflez, il y a une poche qui va presser sur l'estomac et qui va donc minorer le volume de l'estomac. Si bien que ça génère la satiété.
Là, c'est une ceinture qui vous appuie sur le ventre?
C'est une pression que vous allez pondérer avec la poire.
Voilà, il y a une petite poire, si vous voulez, qui gonfle la ceinture qui vous appuie sur le ventre pour vous couper la faim. C'est pas mal ça, hein, puisqu'on vit dans un monde où 95% des gens cherchent à manger et 5% essayent de maigrir, hein, tout simplement. D'ailleurs, puisqu'on parlait d'essayer de manger, j'ai tenté de trouver des solutions pour eux, d'autres débouchés quoi.
Bon, est-ce que ça peut marcher en cas de famine pour ceux qui ont faim?
C'est sûrement très efficace.
Ben oui.
Pour éviter de souffrir de la faim, c'est honnêtement une application à laquelle nous n'avons pas pensé. Parce que c'est le but extrême du raisonnement.
On peut envoyer des cartons de ceinture au Darfour.
C'est horrible.
Ben c'est horrible, c'est horrible. Je leur ouvre un marché à l'international. Enfin, ils sont pas contents. Bon, vous inquiétez pas, Macron, s'il nous écoute, il va s'en emparer. Une ceinture par étudiant qui fait la queue devant la banque alimentaire. Allez hop, c'est ça, être disruptif, comme on dit chez les... comment on appelle ça? Les connards. D'ailleurs, j'avais d'autres questions pour l'équipe de cette fabuleuse ceinture.
Et est-ce que c'est applicable sur d'autres parties du corps?
Ça, je ne pense pas.
Est-ce qu'on peut imaginer une ceinture... sur les testicules, peut-être pour les gens qui ont des pulsions sexuelles
Ça, je sais pas. Non, je pense pas.
Non, bah, il faudrait y songer, peut-être. Ou alors éduquer les mecs, si on veut pas qu'ils continuent à développer le syndrome patriarcal priapique décontracté de l'agression, le fameux syndrome PPDA. Bah, on peut toujours rêver. Et ça tombe bien, ce matin, j'ai rencontré les inventeurs de la Dream Machine. Vous avez vu la transition ? Je suis champion d'Europe de transition. Hein. Cherchez pas, c'est l'école Van Hoenacker. La Dream Machine, c'est un casque sur les oreilles avec de la musique de méditation et des grosses lumières, des gros flashs qui clignotent en plein dans votre face. Explication.
Ce qu'on fait, en fait, c'est une lampe connectée. La lampe, elle va émettre un scintillement lumineux très simple qui va guider le cerveau dans un état second.
Ok. Donc,
et nous, en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est influencer l'activité électrique cérébrale pour avoir un état qui est semblable ou similaire à un état méditatif profond qu'on pourrait atteindre avec quelques années de pratique.
En envoyant des flashs dans la tronche aux gens.
Exactement.
Voilà, voilà, bien sûr, l'idée étant de les aveugler pour leur vendre la machine derrière. Hein. C'est la fameuse technique Apple. Hein, ils font ça très bien depuis des années. Allez, il est temps de conclure avec cette bien belle Dream Machine.
Les expériences, elles vont amener des visuels complexes avec des hallucinations qui vont se mettre en place, des lumières, des kaléidoscopes lumineux. Il va y avoir aussi des ressentis intérieurs forts avec des sensations physiques qui sont curieuses.
C'est une sorte de LSD numérique.
Alors les effets visuels peuvent faire penser un peu au LSD en plus quand on le teste.
Voilà, c'est du LSD qui nécessite de l'électricité. C'est ça la vraie innovation. C'est vraiment faire la même chose qu'avant, mais en plus cher et en plus énergivore pour faire du PIB, de la croissance et conforter le capitalisme. C'est un système économique basé sur le fait qu'il lui faut de l'innovation sans cesse pour se maintenir en vie. Alors que la vraie innovation serait peut-être tout simplement de le faire crever. Moi je proposais, mais bon après, c'est comme vous voulez.
Guillaume Meurice, oui, bon. Merci, avec toujours plein de nuances à la fin.
Ouais. C'est ça qui est bien. Des solutions, surtout des solutions.
D'accord. Guillaume, Laura Cahen est en train de notre compagnie et on va aborder cet autre thème. Les scientifiques spécialistes du climat sont entrés en lutte. La semaine dernière, en France, certains ont mené des actions de désobéissance civile et une grève scientifique. Le mouvement est international. Il a eu un grand retentissement aux États-Unis. On comprend la colère des experts de l'environnement parce que si leur objet de recherche disparaît, ils perdent leur boulot, évidemment.
Eh ben oui, c'est ballot.
Pourtant, ces scientifiques informent le ministère de l'écologie, mais ensuite, comment le ministère de l'écologie alerte l'Élysée ? C'est comme ça ?
Max, il y a Nico qui voulait vous dire un truc.
Ouais, Nico.
Ah, non, c'est surtout Henri.
Vas-y, Henri, mais je t'écoute, mais vite.
Oui. Bonjour, Max. Non.
Bonjour.
Vas-y. Juste, comment ? Là, on a un petit peu envisagé, tu vois, pas concerté, mais
de discuter.
Et on est un peu d'accord, en fait.
D'accord.
Par rapport à la façon, tu vois, dont on allait être amené à un peu à...
Ah, vas-y, Henri, vas-y.
Oui, mais attends. par rapport à... Tu vois, autant... Pour l'essentiel, vraiment, tout va très bien. Et,
oui, oui, mais, bien sûr. Mais... Donc, rien, en fait. Non, rien. Tu sais quoi, Henri, prépare des phrases, tu verras, ce sera plus clair pour moi.
Un extrait du Sens de la fête, le film de Nakache Toledano. Un article de Ouzbek Erika, où une écologue gréviste témoigne en disant, voilà, avant le second tour, ils sont entrés en grève. Alors, faut savoir que grève chez ces scientifiques, c'est boycotter les tâches administratives et en fait se consacrer 100% à la recherche cette semaine-là. Alors, les scientifiques, les écologues en sont à devoir faire de la désobéissance civile, se mettre en grève, avec assez peu d'écho en France. Vous expliquez comment, vous, que tout ça soit si peu entendu ? Je sais que le sujet de l'environnement est un des sujets que vous nous avez soumis.
Ben, je ne l'explique pas. Je pense que tout le monde a des œillères et se voile la face et qu'on
est dans le déni.
Je sais pas ce qu'on fout, ouais, dans le déni. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Et dans aussi... de toute façon, bientôt, on sera mort, donc nos enfants auront qu'à se débrouiller. Je sais pas, je pense qu'il y a de ça aussi. De toute façon, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, quoi.
Oui, mais il y aura des barbecues connectés. Quand même.
Peut-être que ça va sauver le monde.
Quelles sont vos sources en la matière ? Quelles sont les voix que vous écoutez à ce sujet qui vous informent ? Est-ce que vous suivez des gens en particulier pour toutes ces questions de l'environnement ?
C'est une bonne question.
Ça peut être sur Instagram, comme ça peut être à la radio ou dans les journaux.
Ben, j'ai lu cet article très bien de bout en bout. Il était très intéressant. Sinon, Greenpeace, On est prêt. Enfin, y a pas mal de choses. Mais bon, surtout, je n'ai pas besoin de suivre à fond pour me rendre compte que c'est la catastrophe et d'avoir envie de réagir et aussi d'en parler. Moi, ma façon d'en parler, c'est d'écrire des chansons, mais c'est pas forcément explicite. Ouais. Donc peut-être qu'il faudrait que je me réveille aussi et puis que je fasse des choses plus concrètes.
Désobéir.
Désobéir, ouais, j'ai bien envie de me rallier à cette désobéissance civile, de faire la grève générale. C'est terrible en fait qu'on en soit encore là, que ce soit le spectacle politique qui gagne et qui l'emporte, vraiment comme dans le film Don't Look Up, en fait. On est en train de vivre ça exactement. Et je sais pas, tout le monde s'en fout.
Car les écologues comptent sur les politiques, les médias et les citoyens pour donner de l'écho. Désobéir, c'est une méthode à laquelle vous avez déjà eu recours ? Vous êtes plutôt du genre désobéissante ?
Plutôt du genre bon élève, alors. Mais je me force, hein, j'essaye. Ouais. J'ai récemment fait un petit tatouage, ça c'était une bonne...
Non, mais dans la subversion totale !
Subversion totale !
Mais les déglingos ! Chewbacca, ce serait ne pas faire de tatouage, ce serait déglingos.
Non, je plaisante. Non, Non, quand même, je désobéis, je suis capable.
Émeric Lompré.
Je désobéis tout le temps.
Bah, ça, je sais. D'ailleurs, on va l'entendre tout de suite.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Oui.
Bon, j'ai rien entendu.
Oui.
Bon, je vous préviens, j'avais pas trop envie de la faire, cette chronique. Alors, tout le monde autour de la table est là. Putain, c'est d'habitude, il a envie, ça rend de la merde aujourd'hui. Non, c'est pas ça, mais c'est, en fait, je crois que j'ai atteint mon paroxysme artistique lundi dernier. J'ai fait, je sais pas si tu l'avais entendu, c'était tellement réussi, cette chronique. Je me suis dit, je pourrais faire mieux, quoi. Si les chroniques c'était un plat, celle de lundi serait une raclette. Si les chroniques c'était des filles, celle de lundi serait Jennifer. Et si c'était un meuble, ce serait un meuble avec du fromage à raclette et Jennifer dessus. Et si. Bon, c'est lourd. Okay.
Bon, on va rediffuser celle de lundi alors.
Mais non, mais je suis désolé, mais. Non, mais j'ai plus les tripes, quoi. Et moi, je déteste faire un truc que j'ai pas envie de faire. Non, je déteste. La dernière fois qu'on m'a forcé à faire un truc, c'était au catéchisme. Et c'était vraiment pas bon, les hosties. Heureusement qu'on doit fermer les yeux pour les manger, sinon on le ferait jamais. Quelle idée de faire des chips au goût-bite. Non, bon, alors.
Ouais, on va rediffuser celle de lundi.
Non, allez, je vais quand même faire ma chronique. Je fais ma chronique parce qu'il y a un copain à moi, il m'a dit à quoi bon partir quand on est au top alors qu'on peut encore gratter des cachets pendant 5 ans. Merci Guillaume, c'est vraiment le meilleur. Donc, mon analyse politique du second tour à l'élection présidentielle, attention, c'est un roulement de tambour, mais une machine à laver à froid. Si vous n'aimez pas l'humour, ne dégoûtez pas les autres. Alors c'est parti, analyse politique, c'est la merde. Fuyez, faites-vous cryogéniser, enterrez-vous sur la terre avec un tuba, c'est la merde, Macron, c'est la merde. Voilà. J'espère que j'ai bientôt la matinale de France Culture. Non mais vous avez lu le programme de Macron, c'est... Non mais je demande parce que j'ai l'impression qu'il y a 28% des Français qui ne l'ont pas lu. C'est pas possible. Là, les 5 ans, là, ça va être chaud. Hein. Je veux dire, Thatcher à côté, c'est Florence Artaud. La navigatrice, ouais, ouais. Okay. Je me suis gouré, de toute façon, on s'en fout, personne n'écoute France Inter. Mais, non mais en plus, là, c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. Je veux dire, il va pas faire dans la dentelle. Hein. Il en a plus rien à foutre. C'est comme quand il te reste 3 jours à vivre. Vraiment, tu fais n'importe quoi. Moi, s'il me restait 3 jours à vivre, je ferais pipi en faisant du trampoline. Je mangerais mon poids en chouquette et je ferais l'amour avec n'importe quelle fille qu'elle veut bien à la chaîne, comme ça. Salut Nadine, salut Léo, salut Charline, salut Delphine, salut Laura, salut Charline, salut Isa, salut Charline, salut Alice, salut Charline. Putain, mais arrête Charline, t'es lourde. Dès que c'est fini, elle court pour revenir au début de la file, comme ça, je te vois, hein. Charline, elle est amoureuse de moi, bah, sinon je serais pas là. C'est pas grâce à mes analyses politiques qu'il y a un spécialiste de la politique, il a écouté toutes mes chroniques, il a dit, si on suit le programme d'Emeric, on meurt. Non mais là les 5 ans ça va être parce qu'en plus il est en confiance le petit, ben il a fait 18 millions de voix au second tour. Alors c'est que un tiers des voix, mais pour lui c'est un vote d'adhésion. Hein, Manu, tu l'invites à un repas, il casse les couilles à 2 personnes sur 3 et il est là, on passe une super soirée, non hein? Et on se fait un loup-garou. Mais attends, on est que 4. Et ben on enlève les villageois, c'est pas grave. Je pète la sorcière. Waouh, Nicole Belloubet est revenue. Non mais heureusement on peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. T'imagines, 5 ans rebelote, 15 ans de Macron, en 2032 en France, il restera Bernard Arnault, François Pinault, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Xavier Niel et 67 millions de livreurs des livres. Ça sera la guerre pour les commandes. Il y a Xavier Niel qui a commandé un burger. Ok, j'y vais. Non, c'est moi. Non, attendez. Où est-ce qu'on va récupérer le burger puisqu'on est tous livreurs? Il a raison, Bernard. Je ne m'appelle pas Bernard. Ouais, mais c'est plus rigolo que Antoine pour la chronique. Oui, tu as raison, croque monsieur. Non, ça marche pas. Faut quand même que ça reste crédible, nanar. T'avais dit que c'était rigolo. Ok, désolé. Mais si je comprends bien, il n'y a plus du tout de burger. Non, plus rien. Mais on va mourir de faim. Non. Non, c'est une dystopie. Ça n'existe, on n'existe pas. On est des personnages dans une chronique d'Emmerich. Emmerich, mais il devait pas arrêter de faire des chroniques après le gros carton de lundi. Oui, il aurait dû. Merci de m'avoir écouté. J'ai ri à ma chronique, ça se fait pas.
Emmerich,
rappelez quelqu'un.
Oui, quoi?
Vous êtes meilleur au lit.
Oh, touchez-les, Charline.
Mais c'est passif-agressif un peu.
Enfin, c'est passif-agressif, ouais. Voilà.
Mais il m'a cherché. Elle m'a cherché dans
ses chroniques. C'est du harcèlement.
Vous êtes en public,
on est à l'antenne,
tous les deux.
Attention.
Voilà, arrêtez. Ouais.
Rhabillez-vous déjà.
Non, non, je vais arriver à enchaîner avec le troisième sujet.
Je peux la refaire, si vous voulez.
Non, 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 je vais dire un truc comme... écoutez, Emmerich Lomprey en replay, et surtout celle de lundi. Merci. Allez, on va passer au troisième sujet, mais j'ai du mal. En Russie, la télé-réalité sert la propagande homophobe. Un programme co-animé par un député d'extrême droite met à l'épreuve 8 hommes. Ils doivent prouver qu'ils ne sont pas gays pour éviter toute tricherie. Donc, il est interdit d'avoir recours au radar à gay, le fameux radar à gay. Tout est basé sur la qualité de l'intuition.
Je ne connais pas Ripper. Il suffit juste de vous regarder pour tout savoir de vous. Vous portez un tricot de peau sous votre chemise. Donc vous aimez les concours de fléchettes et vous avez peur des vérandas. Vous avez une oreille plus grande que l'autre. Tant que vous étiez petit, votre père vous obligeait à porter des robes. Je continue?
Non, c'est bon.
Voilà, voilà. Le lancement du son. Sinon, comment je lance le son de Cadmerade dans Mais qui a tué Pamela Rose, un film d'Éric Lartigot. Et bon, c'est grave ce qui se passe en Russie. Pardon, je suis désolée.
Mais comment, moi ça m'intéresse, comment ils doivent prouver qu'ils sont pas gays?
Guédard.
Donc attendez, genre... attendez.
C'est là la finesse, hein.
Guédard, c'est radar à gay. Ça, je le dis pour nos... mes parents écoutent, par exemple, ils savent pas. Voilà, ils savent pas ce que c'est. Maintenant, ils savent. C'est un article de Têtu. Les homophobes ne sont clairement pas les pingouins qui glissent le plus loin, écrit Têtu, parce que les épreuves, c'est résister à la tentation face à des hommes sexy et donc à prouver qu'ils sont bien attirés par les femmes. Et donc le programme est complètement con parce qu'en fait, ça devient ça devient un programme
à regarder, voilà,
ça devient très joli à regarder.
Homo-érotique, ah oui,
ouais. Exactement. C'est un programme innovant, non? Et là, débrouillez-vous avec ça, genre, vraiment, vous êtes bien tombés. Oui. Non, non, je me dis, voilà, c'est un député d'extrême droite qui co-anime tout cela, ça se passe en Russie. Mmh. Est-ce que vous vous êtes dit, ces derniers jours, si l'extrême droite arrive à l'Élysée, on est mal, à ce niveau?
Ah oui, moi, j'avais envie de pleurer, enfin, j'ai eu très très peur, je dois dire.
Oui,
vraiment. Oui. Mais non, mais ils sont complètement fous. Enfin, c'est
quoi, oui, ça je vous confirme.
Oui, mais je ne sais pas comment réagir à cette.
Vous
à
en aviez jamais, vous en aviez jamais entendu parler
de ce
de cette télé-réalité.
De cette télé-réalité homophobe, non. mais c'est incroyable. Mmh, et ça, parce que ça existe depuis quand?
Ah bah c'est récent là,
ouais, c'est récent.
Ouais, tout à fait.
Non, c'était une grande découverte. J'ai ri en voyant le titre et en même temps j'étais complètement catastrophée aussi. Je me dis c'est fou. Puis c'est commandité par, par les politiques, ça encore. C'est effectivement, oui, l'extrême droite est très dangereuse.
Voilà.
Voilà.
Bon, on a bien fait le tour du sujet.
Concentré aussi.
Et puis j'avais une vraie plus-value scientifique.
Oui.
En plus,
sauf Emmerich qui s'abstient. Mais sinon, globalement, voilà.
Globalement, allez lire l'article de Têtu.
Oui, voilà.
Voilà, comme ça, c'est jamais perdu de lire Têtu, de toute façon. Voilà. Bon, on va passer au Jupi Proust parce que moi, j'ai. Là, je suis plus en capacité. Je vais laisser Juliette. Non, mais je suis plus en capacité. Juliette, à part Jupi Proust, allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Laura, regardez-moi, concentrez-vous, ça va aller. Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de la chanteuse France Inter, 10 tout en haut étant Clara Luciani, 0 tout en bas étant Jean-Pascal de la Starac, qui est aussi peu chanteuse que chanteur, à combien vous vous situez?
Oula, mais c'est horrible cette question.
Assez horrible. Mais sinon, vous faites la télé-réalité aussi.
Entre Jean-Pascal et Clara Luciani?
Oui.
Bah 5, hein, au milieu, hein, je sais pas.
Ah oui, non, vous prenez pas de risque, d'accord. Alors, on essaye une autre échelle. Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de la guitariste iconoclaste. Mm-hmm. 10 étant Joan Jett, 0 étant Carla Bruni. À combien vous, si tu vous répondez 5, je saute par-dessus la table.
Non. 8.
Ah, voilà. Si vous pouviez faire un duo avec un chanteur, vivant ou mort, de votre choix, vous prendriez qui? Vous pouvez me dire Abel Chéret, pour faire Abel et Kaer.
Ah bah bravo.
Ou Léonard Cohen, pour faire... Cohen et Cohen.
Bah, oui, Léonard Cohen, j'aimerais bien, c'est sûr.
Et puis ça fait une belle affiche. vous pouvez vivre un moment dans la peau d'une chanteuse française. Vous choisissez quel moment ? Le jour où Marie-Myriam a remporté l'Eurovision ? Le jour où Mireille Mathieu a chanté pour Poutine ? Ou le jour où Carla Bruni a rencontré Nicolas Sarkozy ?
Oh non, non. Joker.
Oh si ! Oh bah l'Eurovision !
Marie-Myriam. Oui, allez Marie-Myriam.
Allez Marie-Myriam. Un ou une écrivain veine de Nancy pour écrire votre autobiographie ? Virginie Despentes, Nicolas Mathieu ou Nadine Morano ?
Virginie Despentes.
Ah bon, c'est surprenant.
C'est bizarre.
Barbara, que vous aimez énormément, a écrit « Il pleut sur Nantes ». À Nancy, il pleut pas mal aussi, mais c'est déjà pris. Alors, il fait
quoi ?
Il
pleut sur Nancy, ouais, c'est dommage. Il fait gris à Nancy, ça rime ? Mais oui. Non, ça c'est méchant, j'adore Nancy, c'est magnifique.
Non, mais gris, c'est pas forcément une laide couleur.
Oui.
Oui, il fait gris à Nancy, très bien. Ouais. Si vous pouviez être la surprise d'un Kinder, à qui aimeriez-vous être offerte ? Sans salmonelle, hein, bien sûr, le Kinder. Il y a un Kinder, tout ce qu'il y a de plus Kinder.
À qui oh là là, je ne sais pas. Quelle question. À Charline, voilà.
Merci, chouette.
Ah, elle n'avait pas assez à faire avec Eric. Ouais.
Ça veut dire, on va partir en week-end tous ensemble et puis voilà.
Allez, c'est parti. Si vous pouviez vivre dans la tête d'une autre Laura, vous choisissez Laura Pausini, Laura Smet ou Laura Adler ?
Non, Laura Marling.
Oh, qui est-ce ?
Oh, une chanteuse anglaise merveilleuse que j'adore, qui a fait plein d'albums.
Ouais, alors on va la découvrir ouais. Alors. Merci Laura Cahen. Je rappelle votre deuxième album qui s'intitule Une fille. Et puis donc vous êtes en tournée, notamment le 22 juin à Lyon aux Nuits de Fourvière, à La Rochelle au Franco le 17 juillet et au Trianon à Paris, ce sera en février 2023. Vous pouvez aller voir toutes les dates de la tournée de Laura Cahen. Merci beaucoup les amis, même Émeric Lompré.
Merci pour l'invite.
Et je vous dis à demain pour l'émission du vendredi en mode encore plus détente qu'aujourd'hui.
Vous observez, restez relax. Vous observez là comme ça. Relax, quand même, relax, relax. Vous observez comme ça. Relax, 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 restez relax.